Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. La centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle produit à nouveau de l'électricité depuis ce matin. Elle avait fermé il y a 8 mois, mais la crise énergétique est passée par là. Nous serons sur place dans une minute. La proposition de loi anti-squat examinée ce soir à l'Assemblée, sanctions plus sévères contre les squatteurs, délai de procédure accéléré. Dans ce journal, l'opération Lumière du désert, nom de code du coup de filet qui a permis de démanteler un super cartel de la coke, DRE dans une dizaine de grandes villes et des trottoirs 100% réservés aux piétons. Et puis le mondial, le Brésil à l'instant qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire contre la Suisse 1-0. Marlène Duret, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo?
Alors les pluies vont jouer les prolongations demain près des frontières de l'Est, en Corse et à proximité des Pyrénées, de la neige en montagne d'ailleurs. Temps calme ailleurs, mais sec et gris et des températures en baisse. Météo complète à la fin du journal.
Les centrales à charbon trop polluantes, que nenni, sur décision du gouvernement, celle de Saint-Avold en Moselle a redémarré aujourd'hui. Cette centrale avait fermé ses portes en mars dernier, mais la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont changé la donne. L'État avait demandé aux dirigeants de la centrale de se tenir prêts. Mélina Fachin, le réseau électrique a donc donné son feu vert aujourd'hui.
Oui, de grandes volutes de fumée grise s'échappent à nouveau depuis ce matin des cheminées de la centrale. Sylvain Krebs, responsable du parc charbon.
La chaudière est en route. Au niveau du parc charbon, on était prêt depuis très longtemps. Et là, c'est parti et c'est bien parti. C'est 5000 tonnes de charbon par jour et on consommera à peu près 500 000 tonnes sur toute la saison.
Ce qui correspond à un tiers de la consommation en électricité du Grand Est. Gazelle Énergie, le propriétaire de la centrale, a donc rappelé ses salariés licenciés, mené des travaux de rénovation pour produire jusqu'en mars prochain. Camille Jaffrelot, porte-parole du groupe, est d'accord de donner un coup de main à l'État, mais de façon temporaire.
C'est temporaire jusqu'à ce que le pays ait besoin de nous.
S'il faut le refaire encore l'année prochaine, vous rempilez l'année prochaine?
On rempilera, c'est clair, mais par contre, il va falloir qu'on ait de la visibilité. C'est-à-dire que si on nous appelle au mois de septembre de l'année prochaine pour nous demander de tourner en octobre, on ne saura pas faire. C'est quand même totalement impossible pour nous de renvoyer nos salariés encore une fois à la maison et de les rappeler encore une fois pour rendre service.
Et puis surtout, Gazelle Énergie veut se consacrer à la reconversion de sa centrale dans les énergies renouvelables le plus rapidement possible.
Mélina Fachin en direct de Saint-Avold en Moselle pour Europe 1. Une ministre quitte le gouvernement, il s'agit de Caroline Cayeux, ministre déléguée aux collectivités territoriales. Sa déclaration de patrimoine a en effet été jugée sous-évaluée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle préfère démissionner, explique-t-elle, pour ne pas gêner l'action du gouvernement. Ses attributions sont reprises par Dominique Faure, sa collègue chargée de la ruralité. On a parlé à plusieurs reprises de ces petits propriétaires qui se retrouvent en grande difficulté parce que leur logement est squatté. Ce soir, justement, les députés vont se pencher sur la question. Tripler les sanctions contre les occupants illégaux de logements ou encore réduire la durée des procédures d'expulsion en cas de loyer impayé. C'est ce que prévoit notamment la proposition de loi du député de la majorité Guillaume Kasbarian. Il s'agit, Alexandre Chauveau, de lutter contre le sentiment d'injustice des propriétaires lésés.
Oui, et le texte a a priori de bonnes chances d'être adopté grâce aux voix des Républicains qui ont amendé puis voté la proposition en commission, mais aussi au Rassemblement national. Marine Le Pen avait en effet déposé une proposition similaire lors du précédent quinquennat, comme le rappelle Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.
La majorité, ça lui arrive souvent en ce moment, court-circuite les meilleurs textes de l'opposition pour se les attribuer. Ce n'est pas très élégant, mais bon, ce qui compte au final, c'est que les propriétaires soient protégés de ces squatteurs.
De l'autre côté de l'hémicycle, en revanche, une partie de la NUPES estime que cette proposition ne traite pas la question du droit au logement, pourtant fondamental selon Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis.
On a dans ce projet de loi un aspect de criminalisation, de condamnation, qui ne règle pas le problème central, qui est celui dans les grands centres urbains, de logements trop importants, d'un prix du mètre carré trop important, de loyers trop importants. Et si des gens squattent, comme on le dit familièrement, c'est parce qu'il y a un droit au logement constitutionnel qui n'est pas toujours respecté.
Les débats commenceront ce soir à 21h30 et devraient, sauf surprise, durer plusieurs jours.
Alexandre Chauveau à l'Assemblée pour Europe 1. Et puis un hémicycle où tout le monde applaudit, ce n'est pas si courant. C'était le cas tout à l'heure pour l'adoption d'une résolution en soutien au peuple iranien. Résolution qui condamne notamment la restriction des libertés et des droits des femmes. Et si on rêvait un peu, si on réservait les trottoirs, une uniquement aux piétons. Ce rêve pourrait devenir réalité dans les grandes villes, Paris notamment. Le Conseil national de la sécurité routière va en effet formuler de nouvelles recommandations au gouvernement pour sécuriser les trottoirs, souvent envahis par les trottinettes. Constat dans les rues de la capitale, Louise Douillet.
Sur ce trottoir de la capitale, les trottinettes et vélos slaloment entre les piétons qui craignent d'être percutés à tout moment. C'est arrivé à Pierrette, 89 ans.
Moi j'ai peur des trottinettes, des patinettes, parce que j'en ai une qui m'a blessée. C'était l'an dernier, j'ai marché normalement, j'ai été heurtée. Maintenant je suis handicapée de la jambe, j'ai une canne parce que je ne peux pas marcher autrement.
Vitesse moyenne d'une trottinette, 25 km/h, beaucoup trop rapide pour que les plus vulnérables puissent s'écarter à temps. Marine est désormais cramponnée à sa poussette.
Samedi soir, je n'ai pas vu la trottinette arriver et elle a failli nous renverser avec ma fille, avec la poussette et qui en plus nous a insultés, comme si nous étions les intrus sur le trottoir. C'est inadmissible, on ne se sent plus du tout en sécurité.
Parmi les conducteurs de trottinettes, Théo qui assume de parfois emprunter le trottoir.
Des fois quand les pistes cyclables sont à contresens, c'est assez dangereux, ça m'arrive même de croiser des motards. Et après j'essaye de prendre la trottinette sur les trottoirs le plus rarement possible et quand il y a souvent peu de monde.
Pour autant, plus de 60% des accidents de trottinettes ont lieu sur le trottoir.
On va continuer à parler mobilité. Les annonces d'Emmanuel Macron n'en finissent pas de faire des vagues. Le chef de l'État se dit favorable à lancer l'équivalent du RER dans 10 grandes villes de l'Hexagone. On sait déjà lesquelles, Aurélien Fleurot ?
Oui, cela va concerner des grandes villes comme Toulouse, Bordeaux, Lille, où il y a un projet qui est déjà à l'étude, ou encore Strasbourg. Là, c'est même assez concret puisqu'un réseau express métropolitain européen sera lancé le 11 décembre prochain. Il s'agit là à la fois de mettre beaucoup plus de trains en circulation, toutes les 30 minutes sur certaines destinations dans un premier temps, mais aussi d'y intégrer des cars express qui pourront circuler à terme sur des voies dédiées. L'idée, c'est donc de proposer une alternative crédible à la voiture pour se rendre dans les centres-villes. Marseille, Lyon et Rennes devraient aussi faire partie des métropoles concernées, mais de tels projets demandent du temps. Une décennie, selon le ministère des Transports. En tout cas, l'idée de ces RER métropolitains, même si elle a surpris hier soir, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle fait partie de la loi d'orientation sur les mobilités de 2019. Et le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, en avait parlé il y a quelques semaines, en évoquant d'ailleurs un ordre d'idées pour le financement. 13 milliards d'euros pour 13 RER métropolitains. Il faudra évidemment le soutien de l'État à l'heure où les prix des transports publics sont nettement à la hausse.
Aurélien Fleurot, la baguette française sera-t-elle inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité ? Et le rail algérien et la harissa tunisienne ? L'UNESCO examine les 56 candidatures depuis ce matin et jusqu'à la fin de la semaine. Il est 19h08 sur Europe 1. Ne bougez pas dans un instant. Europol annonce le démantèlement d'un méga cartel de la cocaïne et la saisie de 30 tonnes de drogue.
Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani.
Un coup d'arrêt à un super cartel de la cocaïne. La drogue venait surtout d'Amérique latine et transitait par les ports de Rotterdam et d'Anvers. Ce cartel, qui contrôlait une bonne partie du trafic de cocaïne en Europe, vient donc d'être démantelé par la police. 30 tonnes de poudre blanche saisie, David Montagnier.
Oui, et grâce à une coopération internationale, son nom de code Desert Light, lumière du désert, elle a permis l'arrestation de 49 suspects entre le 8 et le 19 novembre dernier pour une saisie record, vous l'avez dit, de 30 tonnes de cocaïne, un trafic qui représente un tiers de la consommation en Europe. Des arrestations en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi en France, où 6 personnes ont été interpellées par les policiers français. L'agence européenne Europol a également permis de localiser 2 autres barons de la drogue à Dubaï, 2 ressortissants à la double nationalité belge et marocaine. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de cocaïne pour le marché français. Ils ont été arrêtés et devraient être remis à la France. Un trafic très lucratif au vu des saisies effectuées, des voitures de luxe, des villas, des armes et des dizaines de milliers d'euros en numéraire. Mais l'enquête a aussi révélé des méthodes d'extrême violence avec des actes de torture et de barbarie. 3 personnes arrêtées en France ont été mises en examen et placées en détention provisoire.
David Montagnier, la célèbre enseigne à bas prix Primark annonce un plan de croissance pour la France. 7 nouveaux magasins vont ouvrir. Celui de Lyon sera agrandi. Au total, 800 emplois créés. On va évoquer le mondial dans un instant, mais parlons d'abord des Jeux de Paris 2024. On connaît désormais le calendrier de la billetterie. Pour décrocher son sésame, il faudra passer par un tirage au sort. Axel, mais les inscriptions commencent jeudi.
Et oui, car pour espérer acheter des billets, il faut au préalable s'inscrire à un tirage au sort sur Internet. Écoutez, Tony Estanguet, c'est le président du comité d'organisation des Jeux de Paris.
C'est très simple en fait. Si vous voulez acheter un billet pour Paris 2024, il faut vous inscrire sur une seule plateforme qui s'appelle ticket.paris2024.org. Ça ouvre à partir du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023 pour la première phase de vente. Il y aura d'autres phases plus tard.
Car pour avoir le droit de participer à cette première phase de vente, il faudra être, donc vous l'avez compris, tiré au sort. Un mail sera envoyé aux heureux élus et un créneau non modifiable de 48 heures leur sera attribué pour procéder à leurs achats durant une période s'étalant du 15 février au 15 mars. Cette première phase de vente concernera des packs de 3 places minimum et 30 places maximum. Le pack le moins cher coûtera 72 euros. Ensuite, une seconde phase de vente, également sur tirage au sort, interviendra au printemps pour les places à l'unité. Alors, cela peut sembler, hein, je vous sens un peu complexe, mais en résumé,
j'avoue.
C'est inscription sur le site, tirage au sort, achat de place et au total, près de 10 millions de billets seront en vente pour les Jeux de Paris.
Et rendez-vous donc jeudi, Axel, le 1er décembre à 11h sur le site ticket.paris2024.org. Comme promis le foot, ce soir le Brésil exulte grâce à sa victoire contre la Suisse 1-0. La Seleção, privée de Neymar, est qualifiée pour les huitièmes de finale. Rencontre sous haute tension entre le Cameroun et la Serbie ce matin, score final 3-3. Enfin, victoire du Ghana contre la Corée du Sud 3-2, ce qui relance le Ghana dans la course au huitième. Pour les Bleus, le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 16h face à la Tunisie. Quelle est l'ambiance dans le groupe ? Excellente, nous dit ce soir Jules Koundé, l'un des défenseurs.
Je pense que la vie de groupe est très très importante et ça se passe vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a une partie très jeune dont je fais partie, une partie on va dire avec un peu plus de vécu, mais le mix des générations se passe super bien. Tout le monde a la possibilité de s'exprimer, donner son point de vue, des conseils, ça rigole beaucoup, tout en étant très sérieux quand il faut travailler. Donc c'est vraiment un plaisir de faire partie de ce groupe où il y a vraiment une très bonne ambiance et je pense que ça impacte forcément et ça joue sur le fait que derrière on puisse être performant, bien que forcément il y ait des affinités, mais ça aide toujours quand il y a un groupe qui s'entend aussi bien à l'extérieur que sur le terrain.
Jules Koundé au micro européen de Jean-François Pérez. Et puis selon les médias espagnols, Karim Benzema serait déjà remis de sa blessure et pourrait reprendre l'entraînement dans quelques jours avec le Real. Benzema qui, rappelons-le, est toujours officiellement inscrit sur la liste des Bleus. On va y revenir dans Europe 1 Sport juste après ce journal. À suivre aussi à 20h la dernière rencontre de la journée, Portugal-Uruguay. Les marchés financiers maintenant avec Didier Hamot de boursier.com. Didier, Paris commence la semaine en petite baisse.
-0,7%, oui, pas grand-chose. 6665 points sur le CAC 40 après 8 semaines de hausse hein, quand même. Les nouvelles en provenance de Chine où la pandémie de coronavirus repart de plus belle inquiètent les marchés. Plusieurs grosses usines sont à l'arrêt, hein, comme on l'a vu avec certains sous-traitants d'Apple, mais aussi avec les constructeurs automobiles comme Volkswagen. À noter aussi la nouvelle baisse des cours du pétrole. 82 dollars le baril ce soir. Il faut remonter à janvier dernier pour retrouver des prix aussi bas. Les autres places financières en Europe sont en baisse. -1% Francfort, -1,1% Milan, -0,7% Bruxelles. On a la Bourse de Paris donc qui recule ce soir de 0,7% aussi. 6665 points.
Merci Didier Hamot. Et la météo maintenant avec vous Marlène Duret. Encore de la pluie près des frontières de l'Est et des Pyrénées.
Et oui, elles ne peuvent pas véritablement s'évacuer. Pas avant mercredi en tout cas. Voilà pourquoi on va retrouver un temps gris et pluvieux demain à l'est de la Lorraine, en Alsace. Sur une partie de la Franche-Comté, en Isère, mais aussi des Savoies à l'est de la Provence avec de la neige des 1000 mètres d'altitude sur les Alpes. Ça va rester un petit peu plus actif en Corse avec des averses localement orageuses toute la journée. Et puis, autre phénomène de blocage, des averses qui vont venir buter contre les Pyrénées avec de la neige en moyenne montagne. Météo France prévoit plus de 50 cm de poudreuse entre aujourd'hui et demain sur les Pyrénées dès 1800 mètres, ce qui n'est pas plus mal pour les stations de ski, même si le manteau neigeux est un petit peu instable quand même. Sur le reste du pays, gris, brumeux le matin, une exception pour le nord ouest avec des éclaircies qui auront tendance à s'étendre en journée vers le nord Aquitaine et le sud du massif central. Et au niveau des températures. Il fera un peu plus froid demain. Demain matin, en tout cas, comptez 1 à 6 degrés en général et 5 à 9 près des côtes. La baisse sera moins nette en journée pour les maximales. On attend 11 à 15 entre le sud-ouest et la Méditerranée, au bord de l'océan, voire près des côtes de la Manche. Et puis ailleurs, 7 à 10, avec par exemple 7 à Lille et Grenoble, 9 à Paris, Tours, Clermont-Ferrand et Strasbourg.
Merci Marlène. Prochain point météo à 23h. Très bonne soirée à tous dans un instant. Europe 1 Sport autour de Lionel Rousseau.